France Culture, il est midi et demi. C'est le journal d'Aurélie Kiefer. Bonjour.
Bonjour à tous. Nouvelle journée de manifestation à Mayotte alors que la ministre des Outre-mer rencontre l'intersyndicale et le collectif à l'origine de la contestation. Vous entendrez Annick Girardin qui demande du temps pour répondre aux revendications de fond. Et puis nous mesurerons l'ampleur à Mayotte de la question de l'immigration. Grève et manifestation de salariés des concessions hydrauliques de France devant le Parlement européen. Ils redoutent le bradage de ce secteur alors que la France est sommée par Bruxelles de l'ouvrir à la concurrence. Anne-Laure Chouin nous expliquera les enjeux et les solutions possibles. Dans le nord-ouest de la Syrie, les forces turques encerclent la ville d'Afrin, principal objectif de l'opération Rameau d'Olivier. Nous joindrons notre envoyé spécial dans la région, Franck Madvon. L'autorité palestinienne dénonce une tentative d'assassinat contre son premier ministre. Un engin a explosé lors du passage de son convoi dans la bande de Gaza. Et dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Réforme de la Constitution alors que Xi Jinping peut désormais rester président à vie s'il le souhaite. Comment la Chine est-elle en train d'asseoir sa suprématie sur la scène internationale? On fera donc des allers-retours entre les transformations en termes de politique intérieure et les questions de politique étrangère pour la Chine avec notre invitée, la géopolitologue Alice Ackman, qui vient de diriger la Chine dans le monde. Elle sera avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table.
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, pour dénoncer une fois encore l'insécurité et l'immigration clandestine. Les manifestants ont également interpellé la ministre des Outre-mer, arrivée hier pour lui réclamer des mesures fortes. Car si Annick Girardin a fait quelques annonces, il ne s'agissait que de réponses ponctuelles, comme le renfort provisoire de gendarmes, ce qui a pour l'instant suscité beaucoup de déception et de colère. La ministre s'est donc justifiée ce matin sur France Inter, avant sa rencontre avec le collectif et les syndicats à l'origine du mouvement de protestation lancé il y a 3 semaines. Écoutez Annick Girardin.
Il faut être très clair. Moi, je suis allée à la rencontre de manifestants et il y a ici une forte colère et elle est légitime pour dialoguer avec eux. Je ne suis pas là pour convaincre les manifestants. Je suis là pour travailler avec les élus, travailler avec l'intersyndicale pour tenter d'apporter des réponses de fond, des réponses qui ne sont pas celles qu'on apporte sur ce territoire depuis des années, quels que soient effectivement les gouvernements et les ministres des Outre-mer. Vous savez, c'est très facile hein, d'annoncer des chiffres, de faire des promesses, mais de ne pas tenir sur le long terme. Mayotte a besoin aujourd'hui, enfin, de long terme, de confiance, de méthode, de sérieux. Et ça ne va pas se régler en quelques minutes.
La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, répondait aux questions d'Hélène Roussel. Effectivement, l'île est confrontée à des difficultés majeures dont l'urgence a été pointée à maintes reprises ces dernières années. Bonjour Charlotte Lalanne.
Bonjour Aurélie.
L'immigration clandestine en provenance des Comores est en constante hausse depuis que Mayotte est devenue un département français en 2011.
Et oui, c'est l'une des clés pour comprendre la situation et à cet égard, l'île est celle de tous les superlatifs. Mayotte est le département français qui compte le plus d'étrangers. Parmi ses 256 000 habitants, 1 sur 2 n'est pas né sur l'île. La majorité de cette population étrangère, vous l'avez dit, vient de l'archipel voisin des Comores, des jeunes adultes qui aspirent à améliorer leurs conditions de vie ou à bénéficier de soins médicaux. Mais une fois sur place, difficile de s'insérer sur le marché du travail, ce d'autant que beaucoup de ces nouveaux arrivants sont en situation irrégulière. Moins de 10% d'entre eux décrochent ainsi un emploi, le tout dans un contexte de pauvreté exacerbée, un taux de chômage de plus de 25%, le plus élevé là encore de France. Conséquence, beaucoup de Comoriens vivent dans des bidonvilles et cela génère des tensions allant jusqu'à des opérations illégales de décasage. Depuis début 2016, des collectifs de citoyens maorais chassent ainsi régulièrement les clandestins et détruisent leurs abris. Alors parmi ces Comoriens, 45% arrivent également mineurs sur le territoire de Mayotte, certains seuls. Aller à l'école, compliqué vu la situation déjà tendue dans ce département le plus jeune de France où les infrastructures scolaires manquent cruellement. Pour vous donner une idée, en primaire, la moitié des enfants sont ainsi contraints de suivre une scolarité alternée le matin ou alors l'après-midi. Enfin, il y a ces femmes enceintes qui font le voyage depuis les Comores à bord d'embarcations de fortune dans l'espoir de faire naître leur enfant en terre française. Là aussi, l'enjeu est de taille. La natalité a bondi de 20% ces 5 dernières années à Mayotte. C'est 10 fois plus que la population métropolitaine. Mayotte, une île où, au-delà des problématiques d'éducation et d'emploi, l'accès aux soins est déjà extrêmement limité avec un unique centre hospitalier.
Charlotte Lalanne. Le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvonas, est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie des quatre candidats au poste de secrétaire général du PS et Sophie Delpont vous interrogera en fin de journal sur vos projets pour le Parti socialiste. Mais j'aimerais vous faire réagir à cette problématique de Mayotte. À situation particulière, solution particulière, explique Annick Girardin. Que dites-vous de cette piste qui est explorée d'une maternité extraterritoriale où l'on pourrait naître sans profiter du droit du sol ?
Alors cette question de maternité internationale, elle doit être posée et elle doit être surtout être traitée. Mais j'ai envie d'abord de vous dire que la question qui nous est posée à Mayotte, qui est un territoire, un département français, ça a été rappelé à l'antenne, nous rentrons dans la quatrième semaine de conflit. Moi, j'aurais aimé voir de la part de l'État une réponse forte. J'aurais aimé voir le ministre de l'Intérieur sur à Mayotte pour les problèmes de sécurité. J'aurais aimé voir le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, sur les problèmes de scolarité qui ont
été
évoqués.
La ministre des Outre-mer, c'est...
Écoutez, on envoie la ministre des Outre-mer, malheureusement, les poches vides et avec peu de propositions. Vous l'avez rappelé, ce n'est pas au niveau. D'ailleurs, les associations, l'association des maires le dit et le rappelle. On assiste à quoi à Mayotte ? On assiste à ce que des migrants économiques viennent des Comores en France parce que on considère que les choses iraient mieux sur le territoire national. Et donc il faut apporter une réponse. On demande.
Et alors quelle est-elle cette réponse ?
C'est la réponse, c'est des moyens. C'est des moyens, c'est estimé par les élus locaux de Mayotte, c'est 2 milliards sur 10 ans à peu près. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport à un de ses départements.
Et de l'argent qui serait utilisé pour ?
De l'argent utilisé pour les écoles, pour la sécurité, pour l'insertion, pour faire en sorte
que... surveiller les frontières.
Pour surveiller les frontières, pour faire en sorte que les Français de Mayotte vivent comme dans tous les départements de France. Et sur la question du droit du sol, permettez-moi de vous dire que la fake news portée par Laurent Wauquiez, qui est en train d'expliquer n'importe quoi, parce que vous le savez, que pour avoir la nationalité française, même quand on est de parents étrangers, il faut attester d'avoir séjourné sur le territoire national entre 11 ans et 18 ans et faire la demande. Donc ce type de propos sur le droit du sol, uniquement pour faire encore des clins d'œil au Front National, ça va.
Merci Luc Carvonas, vous restez avec nous pour la séquence interview. Le mouvement de grève à la Cour nationale du droit d'asile est interrompu. Les agents sont pourtant toujours insatisfaits. Ils estiment qu'aucune de leurs revendications essentielles n'a été entendue. Ils comptent poursuivre la mobilisation sous d'autres formes pour obtenir une modification du projet de loi immigration et asile. Ils jugent certaines dispositions de ce projet attentatoires aux droits des demandeurs d'asile. Il a fallu 8 années d'instruction pour parvenir à ce procès qui s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le groupe dit de Tarnac comparaît pour plusieurs actions de sabotage menées sur une ligne TGV en novembre 2008. Parmi les 8 militants anticapitalistes, il y a Julien Coupa, considéré comme le chef du groupe, et son ancienne compagne. La qualification terroriste initialement retenue a été abandonnée, ce qui ne les empêche pas de dénoncer un procès politique. Alors finalement, Florence Thiam, ce sera quel procès exactement ?
Pour vous répondre, on pourrait commencer par dire d'abord quel procès ce ne sera pas. Ce ne sera pas le procès d'une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, comme ceux qui se multiplient aujourd'hui devant la 16e chambre correctionnelle de Paris, où l'on juge les départs en Syrie et les appartenances au groupe État islamique. 10 ans plus tôt, en 2008, où se situe la menace terroriste ? On peut en avoir une idée en réécoutant les propos de Michel Alliot-Marie, alors ministre de l'Intérieur, qui alerte publiquement sur les risques de résurgence violente de l'extrême gauche radicale. Le renseignement intérieur vient aussi tout juste d'entrer dans une première phase de réforme avec la création d'une nouvelle direction centrale controversée, la DCRI. Au moment où se produisent les faits, une enquête préliminaire est déjà en cours qui vise le groupe de Tarnac, cette structure anarcho-autonome, ses relations conspiratives avec d'autres groupes étrangers et de potentiels passages à l'acte. 3 jours après les opérations de sabotage, une 20aine d'arrestations, parmi lesquelles celle de Julien Coupa, l'idéologue du groupe et sa compagne, Ildune Lévy, très vite mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qualification définitivement écartée en janvier 2017 par la Cour de cassation.
Alors que reste-t-il des charges, Florence ?
Association de malfaiteurs, dégradation de biens, recel de documents administratifs, refus de se soumettre à des prélèvements ADN, 3 semaines d'audience annoncée pour juger ce qui semble relever d'une correctionnelle presque ordinaire. Mais on sait déjà que ce procès sera davantage celui de la police et de la justice antiterroriste. Une justice instrumentalisée par le politique, dénoncent les avocats de la défense. Un procès qui pourrait offrir aussi une tribune aux acteurs du groupe de Tarnac, auteur présumé du pamphlet libertaire, l'insurrection. infraction qui vient, avec peut-être le risque de passer cette fois à côté du cœur du dossier, de la banalité ordinaire de cette question liée à toute affaire judiciaire. Les prévenus sont-ils coupables des faits qui leur sont reprochés ?
Florence Turmont vous retrouve à 18h pour un compte-rendu d'audience. Ils font grève contre l'ouverture à la concurrence réclamée par Bruxelles. Les salariés des quelques 400 concessions hydrauliques de France se mobilisent à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, CFECGC et FO. Une manifestation est organisée à Strasbourg devant le Parlement européen. Bonjour Anne Lorchouin.
Bonjour Aurélie.
Les barrages sont la propriété de l'État à 100%. Actuellement, ils sont très largement concédés à EDF et les syndicats veulent à tout prix le maintien dans le giron d'EDF. Est-ce que ce serait possible malgré la mise en demeure de Bruxelles ?
Alors, selon les syndicats qui ont élaboré un projet alternatif, oui. Le secteur, pense-t-il, est beaucoup trop stratégique pour le soumettre à une concurrence telle que prévue, en tout cas par le gouvernement français. Lors d'une réunion à Matignon sur le sujet le mois dernier, on a appris en effet que le gouvernement, en plus de vouloir accélérer les choses sur le dossier, souhaitait empêcher autant que faire se peut qu'EDF ne soit en capacité de reprendre, via les futurs appels d'offres, l'intégralité de ses concessions actuelles. De façon plus générale, le secteur de l'eau, en tant que bien commun, ne peut être soumis à une simple ouverture à la concurrence, c'est ce que pensent les opposants, qui relèvent que les gestionnaires des barrages hydroélectriques en France sont aussi en charge de la gestion des crues, de la sûreté du réseau électrique et de la gestion des usages de l'eau. Bref, ils fournissent un service d'intérêt général, selon eux, et c'est sur ce même principe qu'en Allemagne, suite à une forte mobilisation populaire, tout le secteur de l'eau a été sorti du champ de la directive européenne sur la mise en concurrence des concessions. Alors pourquoi la France met-elle tant de zèle à répondre à une mise en demeure européenne qui date de 3 ans déjà ? Pourquoi n'utilise-t-elle pas, à l'instar d'autres pays européens, des régimes d'autorisation qui permettent de contourner la mise en concurrence directe au profit des opérateurs historiques ? Les syndicats du secteur croient avoir une réponse. La volonté gouvernementale d'être le bon élève européen et une ligne politique qui prône dans tous les secteurs une forme de dérégulation. Le gouvernement, lui, est assez peu disert sur le sujet. On peut imaginer qu'il voit d'un bon œil la redevance que sera dans l'obligation de lui verser les nouveaux concessionnaires des barrages. Une redevance qui sera également reversée aux communes concernées. Il table aussi sur une relance des investissements dans le secteur.
Anne Lorchouin. En Syrie ce matin, des civils ont été évacués de la Ghouta orientale à l'est de Damas. Ils étaient une centaine selon l'armée russe. Les Nations Unies avaient demandé l'évacuation d'un millier de malades et blessés bloqués par les combats. La situation des civils est également très préoccupante dans le nord-ouest de la Syrie. Les forces turques resserrent leur étau autour de la ville d'Afrin, désormais encerclée. Franck Madvon, vous êtes à proximité d'Afrin, côté turc de la frontière. Les forces turques touchent au but puisque Afrin est le principal objectif de cette offensive contre les YPG qui sont qualifié de terroriste par Ankara.
Oui, et c'est l'agence d'État Anadolu qui a affirmé ce matin que la ville d'Afrin serait encerclée par l'armée turque et ses alliés rebelles de l'armée syrienne libre opposant à Bachar al-Assad. Impossible, à vrai dire, de vérifier ces informations. Là où nous sommes, côté turc, les médias sont très favorables au gouvernement et relaient le discours officiel. Ce qui est certain, c'est que l'armée turque a beaucoup progressé ces derniers jours. Elle a conquis de nombreuses localités dans le canton d'Afrin. Elle s'est aussi emparée d'un barrage stratégique au nord de la ville d'Afrin. Les soldats turcs et leurs alliés se trouvent actuellement dans les faubourgs d'Afrin et pourraient lancer l'offensive contre la ville à tout moment. Les civils redoutent un assaut imminent. Ils fuient par centaines la ville d'Afrin. Des images non authentifiées de files de voitures circulent sur les réseaux sociaux. 2000 habitants seraient partis ces derniers jours en direction du sud-est. Ils se réfugient dans les zones contrôlées par le régime syrien ou essayent de rejoindre les régions du Rojava, le Kurdistan syrien, plus à l'est. Mais la Turquie a prévenu, après Afrin, elle veut aller plus loin et chasser les unités kurdes YPG qu'elle considère comme terroristes proches du PKK, le parti séparatiste kurde, de tout le nord de la Syrie.
Merci Franck Madvon. Bagdad lève le blocus à l'encontre du Kurdistan. Les aéroports d'Erbil et de Souleymaniye au Kurdistan irakien sont de nouveau ouverts aux vols internationaux. Les autorités locales du Kurdistan ont accepté que les autorités centrales reprennent le contrôle des deux aéroports. Le blocus avait été décrété fin septembre en réponse à la tenue d'un référendum d'indépendance organisé par Erbil, la capitale de la région autonome, et ce contre l'avis de Bagdad. L'autorité palestinienne accuse le Hamas d'avoir tenté d'assassiner son premier ministre. Ce matin, alors que Rami Hamdallah se déplaçait dans la bande de Gaza, un engin a explosé au passage de son convoi. Il y a eu des blessés, mais le premier ministre palestinien est indemne, Étienne Monin.
Et c'est l'expérience des extrêmes pour le premier ministre palestinien à Gaza, devenu une cible après avoir été accueilli triomphalement il y a maintenant 5 mois. D'après les premiers éléments, l'engin explosif a été déclenché à l'entrée de Gaza. Sur la fin du cortège du premier ministre, il était enterré au pied d'un poteau. Le cratère fait environ 1 mètre de diamètre. Les vitres et la carrosserie des dernières voitures ont été endommagées. Le premier ministre était venu pour l'inauguration d'une usine de traitement des eaux. Il était accompagné du chef des renseignements de l'autorité palestinienne. Il a écourté son déplacement. La tentative d'attentat crée une très forte tension. Mahmoud Abbas tient le Hamas comme responsable. Le mouvement islamique rejette ces accusations. Il condamne ce crime qu'il attribue indirectement aux Israéliens. Les actions violentes s'accumulent. À Gaza, il y a 5 mois, le chef de la sécurité de Gaza a été blessé dans l'explosion de sa voiture. 7 mois avant, un important cadre du Hamas a été exécuté de plusieurs balles dans la tête. Cette tentative d'attentat est cette fois dirigée contre le sommet de l'autorité palestinienne dans un moment où la réconciliation entre Fatah et Hamas est en panne. Elle marque peut-être la fin du processus.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Visite surprise du secrétaire à la défense américain Jim Mattis dans la capitale afghane. Il y a 2 semaines, le président Ashraf Ghani avait fait une offre de paix aux talibans. Aucune réponse officielle n'a été donnée par les insurgés. Mais selon Jim Mattis, certains chefs talibans sont intéressés. Les précisions de Sonia Ghazali.
Les hélicoptères militaires étaient plus nombreux que d'habitude ce matin au-dessus de Kaboul, signe de la visite d'une personnalité importante. En effet, à bord de l'un d'eux, Jim Mattis, le secrétaire à la défense américain, a fait savoir aux journalistes qui l'accompagnaient que si les insurgés talibans ne parlaient pas forcément d'une même voix, certains chefs avaient, je cite, clairement fait part de leur intérêt dans des discussions avec les autorités afghanes. Il y a 14 jours, le président afghan Ashraf Ghani avait invité les talibans à la table des négociations, promettant en retour de les reconnaître comme parti politique. Les insurgés n'ont pas répondu jusqu'à ce jour, déclarant cependant le gouvernement afghan illégitime. Quelques jours avant, il s'était adressé aux États-Unis dans une lettre ouverte au Congrès et au peuple américain, se disant prêt à des discussions. Jim Mattis a affirmé aujourd'hui que la victoire en Afghanistan sera une réconciliation politique et non pas militaire. Sur le terrain, les combats continuent. Il y a 24 heures, le district d'Anordara, dans la province de Farah, près de la frontière avec l'Iran, est tombé aux mains des insurgés qui contrôlent plus de 40% du territoire.
Sonia Ghazali à Kaboul. L'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergei Skripal vire à la crise diplomatique. Hier, la première ministre britannique Theresa May a exigé de Vladimir Poutine qu'il s'explique rapidement sur l'utilisation d'un gaz neurotoxique de qualité militaire d'un type développé en Russie. Aujourd'hui, Moscou réagit en convoquant l'ambassadeur du Royaume-Uni en Russie. La Russie est innocente, déclare le chef de la diplomatie Sergei Lavrov, exigeant de pouvoir accéder à la substance chimique à l'origine de l'empoisonnement avant de fournir des explications à Londres. Depuis ce matin, les réactions russes se succèdent, Jean-Didier Revoin.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que le ton est presque vindicatif. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a estimé que la première ministre britannique s'était livrée ni plus ni moins à un numéro de cirque devant le Parlement. Elle évoque même une campagne politique basée sur la provocation, n'hésitant pas à parler de faribole. Des propos qui, bien évidemment, ne sont pas vraiment de nature à apaiser les tensions qui existent déjà entre Londres et Moscou. Et les propos de Vladimir Jabarov, général du FSB, l'ancien KGB, ne risquent pas de calmer le jeu. D'après lui, le Royaume-Uni lui-même ou un autre pays tiers aurait très bien pu procéder à cet empoisonnement dans le but, a-t-il souligné, de blâmer et de noircir la Russie. Moscou continue donc de nier toute implication dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal et souhaite qu'on lui présente des preuves concrètes qui démontreraient son implication dans cette affaire. Mais pour l'heure, les autorités russes se présentent comme le bouc émissaire des Occidentaux, estimant que cette affaire ne sert qu'à diaboliser la Russie.
Sergueï Skripal et sa fille sont toujours dans un état critique. Et puis, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques se dit vivement préoccupé par cette affaire. Midi 49, il est temps de revenir vers vous, Luc Carvounas, pour la séquence interview de ce journal. Alors, je rappelle que vous êtes député PS du Val-de-Marne, candidat au poste de secrétaire général du Parti Socialiste. Nous sommes maintenant à l'avant-veille du premier tour de scrutin. Vous avez récemment reçu le soutien de l'ancienne ministre Laurence Rossignol. En revanche, le coordinateur du PS, Rachid Temal, a décidé de voter, lui, pour Olivier Faure. Est-ce que, selon vous, ces ralliements, c'est important? Est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur le vote des militants?
D'abord, moi, je suis fier que Laurence Rossignol ait souhaité devenir signataire du texte d'orientation que je porte, le progrès partagé, pour faire gagner la gauche. D'ailleurs, avec Pascal Boitard, je souhaite porter, dans le cadre de cette révolution féministe que je veux pour le Parti Socialiste, une nouvelle façon de faire de la politique. Et avoir les deux anciennes ministres des droits des femmes à mes côtés est une démonstration que ce que je porte leur trouve un écho très favorable.
Ça vient appuyer votre propos.
Tout à fait.
En revanche, Rachid Temal qui estime que Olivier Faure est le seul qui puisse réussir à rassembler militants et sympathisants.
Vous avez là le premier secrétaire national par intérim qui sort de sa neutralité. Donc moi cela me pose souci et c'est dommage qu'à deux jours du vote il fasse cela. Je crois que cela n'apporte rien au débat et qu'il aurait mieux valu qu'il reste dans cette neutralité.
Sophie Delpont du service politique de France Culture.
Bonjour Luc Carvounas.
Bonjour.
Alors au cours du débat qui a eu lieu donc la semaine dernière, vous avez répété que vous aviez été maire d'une commune, oui. En l'occurrence celle d'Alfortville. En quoi cet argument pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste est-il pertinent? Pourquoi autant le mettre en avant?
Il est pertinent parce que depuis des décennies, mon parti s'est coupé des élus locaux que nous sommes. D'ailleurs, à voir la composition du bureau national sortant, il y a à peine 3 maires en son sein. Et que quand on est maire, on est confronté à tous les problèmes de logement, de sécurité, de pouvoir d'achat, de migrants aujourd'hui. Et que c'est une valeur ajoutée qui est extrêmement précieuse au moment où chacun, tous les candidats, parlent que de la refondation au travers des territoires. Bah vous voyez, moi les territoires, je sais en parler, j'y vis, je suis devenu le maire de la ville où je suis né. Et je pense que cette expertise peut être précieuse pour redresser le drapeau socialiste dans nos départements.
Dans un article publié par le journal Nouvel Obs en novembre dernier, il est pointé la gestion de votre ville, qui a été épinglée par un rapport de la Chambre régionale des comptes, notamment sur les dépenses de communication, une politique de recrutement contestable, une flambée des dépenses de personnel.
Oui,
que vous répondez à ça?
Votre question est curieuse dans le cadre du congrès du Parti Socialiste. Je vais y répondre parce qu'il n'y a pas de problème. Vous avez donc lu tout le rapport. Et donc, vous avez lu que les finances de la ville étaient très saines. Après, je m'en suis expliqué avec Didier Migaud. Je suis allé le rencontrer en lui disant que je trouvais que le rapport, par moment, était un petit peu orienté. Il m'avait dit que j'aurais dû prendre rendez-vous avec le président, ce que je n'ai pas fait. Mais en tous les cas, moi, je suis très fier que les magistrats, finalement, me pointent du doigt parce que je fais attention au service public, parce que je désendette la ville, parce que je n'ai pas augmenté la masse salariale. Alors, vous voyez, dans les articles, on peut orienter pour faire mal. Dans le cadre d'un congrès, ça s'appelle un peu les boules puantes. Je l'accepte. Mais la gestion de ma commune, elle a été saluée au travers de mon élection, avec 63% des Alfortvillais qui ont souhaité que je devienne leur député.
Justement, vous parlez donc de cette élection qui est très importante pour l'avenir du Parti Socialiste. Plusieurs lignes politiques se dégagent. Donc il y a Stéphane Le Foll qui est plutôt Macron compatible. On a donc Olivier Faure qui a une personnalité qui est vue un petit peu comme rassembleuse. En tout cas, c'est le chef du groupe à l'Assemblée nationale. Il y a donc votre candidature. Et puis ensuite, celle d'Emmanuel Morel qui est plus Mélenchon compatible. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, vous parliez de rassemblement tout à l'heure, quoi qu'il arrive, pour garder ce parti tel qu'il est, ou est-ce qu'il y a une scission?
Si je devais être taquin, puisque Olivier dit souvent, Olivier Faure, qu'il est celui qui rassemble le plus, je constate qu'il y a eu 4 candidatures de députés sur 28. Pour quelqu'un qui veut rassembler, ça n'a pas forcément marché dans le groupe, pour commencer. Ensuite, moi, ce que je défends, c'est une ligne politique qui est claire. Je n'aspire pas, comme Emmanuel Morel, à être le patron d'une petite opposition qui reste dans l'opposition à vie. Et moi, je n'aspire pas, je l'ai entendu hier de la bouche du mandataire départemental en Val-de-Marne de Stéphane Le Foll, à faire des alliances avec la droite. Parce que Olivier Faure et Stéphane Le Foll sont les deux concurrents qui ne souhaitent pas parler des alliances. Mais je vais vous dire pourquoi. Ils ne souhaitent pas parler des alliances parce qu'ils veulent faire exactement pour la France et le PS ce qui s'est passé en Allemagne et le SPD, une grosse coalition avec la droite. Parce que ce congrès doit aussi définir ce qu'est le macronisme, la droite libérale. Et je suis le seul candidat à porter dans mon texte la gauche arc-en-ciel basée sur les partis rose, rouge, vert, mais pas seulement, la société civile, les associations, les syndicats, tout ce qui nous permet de nous recranter dans nos territoires. Et vous voyez, pas nous détourner de ce qui est ceux pour qui nous travaillons, à savoir les classes populaires ou Terra Nova. Encore des experts, comme le souhaitent Olivier Faure et Stéphane Le Foll, dès qu'ils seront élus, qui nous disent à nous, les élus locaux, ce que nous devons penser. Il faut que l'on reprenne un chemin clair. Ma ligne politique, elle est claire. Mes alliances, elles sont claires. Elles sont à gauche. Et avec moi, on ne sera ni Macron BA, ni Mélenchon BA.
Dernière petite question. Vous n'êtes plus donc proche de Manuel Valls. C'est une image-là qu'aujourd'hui, vous rejetez. Vous ne souhaitez plus du tout être associé à Manuel Valls.
Écoutez, vous me parlez de quelqu'un qui est parti. Donc moi, je suis candidat pour être le chef d'orchestre du Parti Socialiste. Et dans mon tour de France, qui a été noté par tous les militants que j'ai rencontrés, c'est ma loyauté au Parti Socialiste.
Merci Luc Carvounas. Demain, nous recevrons Olivier Faure, également candidat au poste de secrétaire général du PS. Le temps de ce mardi, les averses seront fréquentes cet après-midi dans le nord-est, au sud, temps sec et bien ensoleillé. Les températures atteindront 8 à 13 degrés jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard et aujourd'hui, c'est Stanislas Vazak qui présentera le journal de 18h.